Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Trouble et s'endort. Il reste dans le brouillard plusieurs jours, entre la veille et le sommeil. On lui fait une piqûre une fois par jour et lui donne des médicaments. Il aimerait crier, hurler, partir, mais il est trop faible. On lui donne à manger, à la cuiller, et le mène au WC comme s'il était un grand malade. Petit à petit, ses rêves sont moins visibles. Il y a moins en moins de fourmis à travers tout le corps et moins mal au ventre. On le fait manger par petits morceaux en plusieurs fois parce que son estomac s'est rétréci. Et ça le rendrait malade de manger, de trop manger comme ça. Alors il s'alimente par petits bouts. On le fait beaucoup boire aussi. De temps en temps, il sent la présence de la femme. Il ne peut la voir ni lui parler, parce que trop faible. La chambre est dans la demi-obscurité, juste ce qu'il faut pour qu'il se rende compte du jour et de la nuit. Il entend le bruit du jardin, des oiseaux, des insectes et des cloches qui sonnent. Il a le visage détendu, plus jeune, plus plein. Il prend du poids. Thank you. Gilbert, lorsqu'il est près de Judith, dans une soirée ou autre, se sent mal à l'aise. Il a comme un froid. Il n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. Il le dit à Julien. Ils sont dans la chambre de Julien. Elle me fait froid, Julien lui dit. Tu veux te faire des idées? Non. Et puis elle est bizarre. Je me demande toujours ce qu'elle veut, Julien lui dit. Elle veut réussir. Tu as vu comme elle a monté? Gilbert lui dit. Oui, c'est tout de même étrange. Julien lui dit. C'est une femme moderne qui veut y arriver. Et oui, mais elle, quelle chance! Elle a, en un rien de temps, elle a grimpé les échelons. Et puis, mon accident me paraît étrange. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis, elle était là, juste au bon moment. J'avais rendez-vous avec Serge et elle, elle était sur la route. C'est comme si j'étais entre les deux. Je ne sais pas, quelque chose cloche. Et dans le restaurant, cette fille qui disparaît, elle y était peut-être? Non, malgré moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une machination. Julien lui demande, comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Je crois qu'un accident ne vient pas comme ça. Alors d'après toi, on a trafiqué ta voiture. Et pourquoi pas? Elle était en bon état? Julien lui demande. Et qui aurait fait ça? Gilbert lui dit. Pourquoi pas Judith? Julien lui dit. Tu la vois bricoler ton moteur? Et pourquoi pas? Ce n'est pas sorcier? Julien lui dit. Va expliquer tout ça à la police? Gilbert lui dit. Je ne peux pas à cause de mon père, il la soutient. Eh ben, parle-lui à ton père de tes soupçons. Gilbert lui dit, oui, c'est ce que je vais faire. Le soir, en rentrant chez ses parents, entrez. Il retrouve sa mère au salon. Il lui demande, où est le père?
Il est dans son bureau.
Bien, j'y vais. Et il sort du salon. Pour aller au bureau de son père. À la porte, entrez. Il entre. Son père est assis à son bureau. Il s'approche de lui. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, père. Il y a quelque chose qui me chiffonne. C'est au sujet de mon accident. Je t'écoute. Eh bien, j'ai l'impression que ce n'est pas très clair. Que Judith y est pour quelque chose. Dites. Oui, père, elle est bizarre. Et puis cette histoire ne tient pas debout. Que faisait-elle sur cette route? Le père hausse les épaules et lui dit. Elle est chez une amie. C'est pur hasard. Il lui dit. Quelle amie? Le père lui dit. Demande-le-lui, je ne suis pas un flic. Gilbert continue. Et puis, cet accident, c'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange qu'une voiture ait un accident ?
Il lui dit, justement, le jour où j'allais chez Serge, j'étais pris entre Serge et elle, et j'ai eu mon accident.
Le père lui dit, mais c'est le pur hasard. Arrête de poser de te poser des questions.
Il est tout de même bizarre, cette fille. Tu ne trouves pas ? Elle monte les échelons bien rapidement.
Le père lui dit, c'est moi qui l'ai décidé, parce qu'elle est très capable. Elle est remarquable dans son travail. Et d'ailleurs, elle aimerait, c'est que tu entres, toi aussi, dans les affaires de l'entreprise.
Gilbert lui dit, c'est elle qui a eu cette idée-là ?
Oui, et c'est une très bonne idée. C'est aussi la preuve qu'elle ne te veut pas de mal.
Il lui dit, c'est peut-être pour m'en donner du mal qu'elle veut que je sois avec toi.
Ton père lui dit, arrête de la dénigrer. Tu devrais la remercier. Sans elle, tu serais mort.
Peut-être fait exprès.
Son père soupire et lui dit, as-tu une preuve contre elle ?
Non, père.
Bon, alors, tu n'as rien à lui reprocher.
Non, rien de précis.
Des présomptions, ce n'est rien. Moi aussi j'en ai en ce moment. Et je crois que tu es jaloux de cette fille qui réussit et que toi tu végètes dans ta médiocrité.
Gilbert lui dit, c'est stupide. Si c'était vrai, j'aurais accepté ton offre de travailler avec toi.
Le père lui dit, si tu l'as refusé, c'est peut-être que tu es incapable de prendre le poste. Voilà mes présomptions à moi. Maintenant, laisse-moi.
Furieux quitte son père.
Il a reçu ses cachets, il est 2h du matin. La maison de Florence de Contray est en Touraine. Est dans le noir. Au fond du parc, il n'y a pas de bruit. Tout est calme. Sur la route qui mène à la maison, une maison isolée, un peu plus loin de la maison, au bord de la route, dans l'ombre, sous les arbres, égarée, une voiture noire, tout feu éteint. À l'arrière de la voiture, une cigarette s'enflamme et montre le visage de la dame en noir. Elle dit à deux hommes qui sont sur le siège avant de la voiture:
il faut y aller, attention, évitez le sang, mais s'il le faut, allez-y.
Les deux hommes sortent de la voiture. Marchent l'un côté de l'autre sur la route sans lumière. Ils arrivent vers la propriété, le mur dans la nuit fait plus clair. Ils longent le mur, s'arrêtent. L'un des deux hommes a sorti de sa veste une grosse corde avec au bout un crochet. Il lance le bout de la corde qui a le crochet de l'autre côté du mur. Tire sur la corde. Ils ont des gants noirs tous les deux. L'homme qui a lancé la corde monte avec l'aide de la corde et va saute de l'autre côté du mur. L'autre le suit. Ils se retrouvent tous les deux dans le parc. Il tient la corde, la font descendre de leur côté et l'homme la prend. Puis ils vont vers la maison sans faire de bruit. Monte vers le perron et là l'homme essaye plusieurs clés. Ouvre tout doucement la porte. Ils entrent. Elle l'a refermée. Ils prennent tous les deux une lampe ou torche. Et un homme regarde un papier. C'est un plan. Puis, il monte à l'étage en faisant le moindre bruit possible. Au deuxième étage, suivent le couloir. Et ouvre tout doucement la chambre d'Eric. Un homme prend une boîte en métal.
s'approche du lit, tout doucement. L'homme ouvre la boîte de métal, il y a une piqûre. Il le pique en bas du bras. Et Eric s'est rendormi. Vite, il enroule Eric dans son drap. Et un des hommes le porte, l'autre le devance. Et ils sortent de la chambre à pas de loup. Long du couloir, Eric dort tranquillement dans les bras de l'homme. Il descend les escaliers. Et sortent de la maison. Longe le parc. Arrivé au mur, l'homme prend la corde, la lance avec le crochet de l'autre côté, puis monte sur le mur. L'autre lui tend Eric et ensuite monte. Puis il met le crochet de l'autre côté. Celui qui n'a pas pu descendre, descend. Faut qu'il t'en bas. Il prend dans ses bras Eric, que l'autre lui tend. Il descend lui-même. Il reprend la corde. Puis reprennent leur marche. Et vite, les deux hommes vont rejoindre la voiture qui est cachée sous les arbres. Lorsqu'elle les voit arriver, elle sort de voiture, laisse la portière ouverte. L'homme qui a Eric le dépose sur la banquette arrière. Elle s'assoit à côté de lui. Les deux hommes entrent dans la voiture et la mettent en marche.
Thank you.
demande. Tout s'est bien passé?
Le petit conduit lui dit.
Oui, madame. Très bien. Tout s'est très bien passé. N'a pas bougé ni crié.
Elle regarde Eric et dit. Il dort comme un bébé. Allons vite.
Devant être là-bas.
Bien, madame.
La voiture file dans la nuit.
Eric dort toujours aussi bien. Il a eu une double dose cette nuit. La voiture file dans la nuit. Elle est seule sur la route.
Arrive à Paris et va sur les quais.
Elle s'est arrêtée sur les quais.
On sort Eric de la voiture. On le ramène où il a été trouvé par Florence sur le même banc. Les hommes sont retournés dans la voiture.
La voiture, elle leur dit, comme ça, il va croire qu'il a fait un rêve. Et puis, il va croire qu'il aura rêvé. C'est pour ça que je voulais qu'on le remette au même endroit et la nuit. Pour qu'il, lorsqu'il va se réveiller, il croira avoir fait un beau rêve. Allons. Partons.
Et la voiture s'est enfoncée dans la nuit.
Thank you. Le jour commence à se lever petit à petit. La ville s'éveille, comme l'on dit. On s'entend quelques passants passer, des fenêtres, des portes qui claquent, des passants qui passent en se pressant parce que le temps est froid. Des camions qui circulent. Des sirènes.
Putain.
Des bruits de grues. De chantier, d'un immense chantier, celui de Paris, de Franblanc, des camions qui ramassent les cadavres dans les rues, d'autres des immondices, la ville s'éveille, quoi. Mais son réveil n'est pas un réveil joyeux, plein de senteurs, de douceur, de bonnes odeurs de croissants, de jolies filles qui passent, de commerçants qui ouvrent leur boutique, de cafés qui se préparent, qui préparent leur terrasse. Odeur de fraîcheur, d'air doux, mais pas d'humidité. D'enfants qui s'amusent pour sortir de l'école, pour aller à l'école, etc., etc. Tout ça, c'est fini, bien fini. Il y a bien 30 ans ou plus que ça n'arrive plus. Maintenant, le matin, c'est lugubre, parce qu'il fait froid, parce qu'on manque de tout, on manque à manger, à se chauffer, on n'a pas de vêtements. Et puis le décor de la ville est un décor de ruines. Parce que les magasins sont fermés la plupart du temps. Ils ont été massacrés durant la nuit. Parce que dans la nuit, il y a des bruits, il y a des bagarres, des émeutes, etc., etc. De ramassage de cadavres. s'est arrêté. Un homme est sorti du camion, il est grand, fort. Il y a peut-être un cadavre, il va voir, se penche, secoue le jeune homme qui se réveille. Il voit un ciel blanc, lumineux, et un homme dans les 50 ans qui lui crie « Il est vivant, pour cette fois !» Et Eric le voit se retirer. Le camion s'éloigne. Il a la tête en plomb, les membres raides et gelés. Il réussit à s'asseoir. Regarde autour de lui, reconnaît les quais, se gratte la tête. Il se souvient bien qu'il était chez la femme qu'il a soignée. Comment a-t-il fait pour revenir ici? Il avait été très malade chez la femme. Et qui était-elle? Pourquoi l'a-t-elle prise avec lui? Il ne se souvient plus. Plus il réfléchit, et plus il trouve cette histoire de femmes bizarres et ridicules. Pourquoi m'aurait-elle pris avec elle? J'ai fait sûrement un rêve. Oui, ce doit être bien ça. Il a froid, très froid. Et aussi faim. C'est bizarre, j'ai faim. Lui qui n'avait jamais faim, aucun tremblement, fourmillement, ni crampe d'estomac. Son besoin de gaule a-t-il parti en une nuit? Il se souvient qu'il n'avait pas pu en avoir. Et qui s'était endormi sans en avoir pris. Oui, je me souviens bien. Et un homme qui lui a volé sa carte. Sa carte! Il faut qu'il aille à la banque, des SDF en prend une autre. Sa carte? Sans carte? Il ne peut même pas s'acheter un morceau de pain. Il se lève d'un bond. Vous cherchez une autre carte. Sympa. Le voit avec Aurore qu'il est en pyjama, pieds nus. Qu'est-ce que je fais habillé comme ça? Le jour est complètement levé. Il commence même à faire soleil. Mais un soleil dans un ciel gris, lumineux. Que je vais faire comme ça? Il marche sur les quais, sans carte, sans écran, sans vêtements. Il ne sait que faire. Il marche. Sa gorge se sèche, se serre. Il se dit que s'il est en pyjama, c'est que la femme. C'était vrai, la belle femme en blanc. Mais pourquoi est-il ici alors?
Peut-être parce qu'elle avait eu assez de lui. Il regrette la femme en blanc. Il a froid, envie de pleurer. Je dis que ça va recommencer, tout comme avant. La drogue, l'argent, la peur, la faim. Comme les piquets sont sans passant et qu'il faut bien qu'ils demandent de l'aide, décide de traverser, aller sur l'autre trottoir où il y a quelques passants, et puis prendre une rue, il traverse. Les gens qui le voient ne sont pas surpris de le voir comme ça en pyjama, parce que c'est la misère et chacun s'habille comme il peut. Il n'y a plus depuis longtemps, parce qu'effectivement il n'y a plus de SDF, de lieux pour eux où ils pouvaient trouver de l'aide, quelque chose. Il prend une route transversale qui monte. Il va jusqu'au lycée Henri IV. Là, il y a des bandes de jeunes qui sortent du lycée. Lui monte. Il a de plus en plus froid et faim. Il dépasse le lycée et continue à monter. Tout à coup, il voit qu'il sort de l'allée son ami Denis. Denis le regarde bien. Il sourit, il lui dit, tiens, en revenant, alors, salut. Denis lui demande, mais où t'es-tu passé? Je cherchais de partout, des jours et des jours. J'avais cru qu'on t'avait ramassé. Eric lui dit, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment moi-même. Mais une drôle d'histoire. J'ai faim et froid. Denis le regarde bien et lui dit, c'est vrai qu'avec ce que tu as, tu ne dois pas avoir bien chaud. C'est une de tes conquêtes qui t'a flanqué à la porte, comme ça. Et lui, tu dis, non, je ne sais plus, j'ai froid. Tu peux me trouver à m'habiller? Denis réfléchit, lui dit, viens, viens dans un grenier. Eric le suit. Denis retourne dans l'allée où il est sorti. Ils entrent tous les deux. Allez, pauvre et sale. Ils montent les escaliers de pierre étroite. Au dernier étage, ils ouvrent une porte qui donne à des escaliers de bois. Ils les prennent.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.